Henri Barbusse, Le premier amour. Quand nous reçûmes, dit Calvin, la lettre de faire part, annonçant le mariage du docteur Nixter avec Angèle de la Vallée, nous eûmes tous un serment de cœur. Oh, ce fut bien pis encore pour ceux d'entre nous, les intimes, qui ne purent se dispenser d'assister à la cérémonie. Tous deux étaient jeunes et beaux. On voyait qu'ils s'adoraient, mais on voyait surtout qu'elle était infiniment fragile et qu'elle allait bientôt mourir. Sous son voile retombant, la jeune fille apparaissait toute droite, mais toute mince et penchée comme un jet d'eau. Sa figure, oh, si exquise qu'elle fût, un peu trop de pâleur la masquait, un peu trop de maigreur la durcissait, et le sourire qui flottait devant elle était effrayamment, divinement léger. Toute cette blancheur dont elle était faite et revêtue, cette blancheur parfaite à peine tachée d'un rosissement des joues à chaque délicat accès de toux, était déjà surnaturelle et, en vérité, dès qu'elle restait immobile, on avait presque peur et n'en devait plus penser à elle. Combien elle s'appuyait sur lui et combien il était grave et inébranlable. Jean Nixter présentait un des plus beaux types d'hommes que puisse rêver, que puisse embellir des yeux d'amoureuse ou d'artiste. Sa volonté, sa vitalité triomphante s'épanouissaient dans sa haute taille, sa spacieuse carrure, la régularité splendide de ses traits, et davantage encore dans l'émotion tremblante qui le penchait sur elle. Oui, oui, en voyant ce couple, j'ai enfin compris que la douceur et la tendresse ont quelque chose de mâle. Ils s'étaient adorés toujours depuis les commencements. Enfants, ils s'étaient rencontrés lors de quelques vacances sur la place de Saint-Just, où il y a une fontaine pointue, un banc, un arbre et quelquefois un passant. Et là, ils se sourirent avant de savoir qui ils étaient, se cherchèrent et se retrouvèrent souvent, et un soir, s'embrassèrent avant de savoir ce que c'était. Dans les temps qui suivirent, à la faveur des voisinages de ville et de campagne, ils ne se quittèrent plus. Jean fit à Angette, en même temps qu'à lui-même, confidente de son idéal de musique, de gloire, de chef-d'œuvre sublime, et Angette apprit de lui tout ce qu'elle était capable d'espérer de la vie. Quand la jeune fille fut atteinte par le mal, d'abord très doux et comme caressant, puis quand sa santé définitivement s'altéra, elle n'était point orpheline. Cependant, ce fut vers lui seul qu'elle s'étiola, pour lui seul qu'elle souffrit. Puisqu'elle ne se rétablissait pas, il résolut de changer d'avenir. Il ne serait pas musicien, mais médecin, et à la place de faire un chef-d'œuvre, il la guérirait. Il travailla dans cette foire, s'acharna sur les livres précieux, les apprit comme d'interminables prières. Aussitôt qu'il eut obtenu son diplôme de docteur, il prétendit l'épouser. Angette avait d'abord essayé de ne pas vouloir, car elle savait qu'elle était condamnée, mais elle était trop aimante et trop faible pour qu'il lui fût possible de refuser longtemps. Aux parents lugubrement irrésolus, aux amis agités de réticence, il avait dit « Oh, je la sauverai !» Et voilà que, dans l'étroite salle grise de la mairie, ils passaient tous deux, tellement unis et occupés l'un de l'autre, que leurs regards, lorsqu'ils se tournaient vers les étrangers, semblaient aveugles. Les étrangers, c'étaient les parents et nous, les amis. Je me souviens qu'il y avait en outre le petit Lambert. Comment avait-il eu l'idée de venir, celui-là ? Parents, non. Amis, Nul de nous n'ignorait qu'il avait 2 ans de ça, demandé la main d'Angette. Il avait été, et pour cause, radicalement éconduit. Après quoi, un mariage avec une héritière en avait fait un triomphant docteur mondain, un maître adoré des salons. Et pourquoi était-il là? Chevaleresque courtoisie ou haineux cynisme? Qui sait? Toujours est-il que sur le mur morne de la salle des mariages resplendissait son faciès de ténor et sa mâchoire de dompteur, et la ténébreuse chevelure luisante qui lui avait conquis tant d'importantes clientes. D'ailleurs, je vous en ai expliqué la cause, ni Jean ni Angette ne le remarquèrent. À partir de ce moment, Jean Nixter se consacra opiniâtrement, scrupuleusement, à guérir sa femme. Comment dire l'ardeur, la patience, l'héroïque ingéniosité qu'il mit en œuvre et les sublimes mensonges qu'il créa et son effort désespéré pour deviner les mystères et voir dans la nuit. Et qu'arriva-t-il? Elle déclina d'abord. Puis elle s'arrêta de mourir, puis, tout doucement, tout enfantinement, elle se remit à vivre. On dit qu'il lui transfusa de son sang. Je le crois, car je l'ai rencontré plusieurs fois, pâle et les gestes paralysés, avec un air extraordinaire. On dit aussi qu'il la suggestionna, mania sa volonté. Je le crois également, car il est certain qu'il essaya de tout. Quoi qu'il en fût, il la sauva. Et quel amour pendant cette convalescence si lente, si détaillée, où elle demeurait tout attachée au magnifique ami, comme à une mère qu'il était. Quel insondable échange de leurs regards pendant ces heures où les mains de l'homme enveloppaient celles de l'épouse, longue mais petite et blanche, et telle que 2 anges jumeaux. Bientôt, elle n'eut plus besoin de s'appuyer tout et toujours sur lui. Elle quitta un peu sa grande ombre. Il lui suffit qu'il la regardât. Ensuite, il lui suffit qu'il y eût du soleil. Elle se hasardait, elle s'essayait à la solitude comme un petit oiseau à l'espace. Une fois que Jean était absent et que le matin tombait, triste et pluvieux pourtant, elle leva la tête, extasiée, rien qu'à cause d'elle-même et de la vie. Rénovation, métamorphose. Une créature fraîche et neuve s'était dégagée d'elle et la remplaçait. Ses formes s'harmonisèrent et s'accomplirent. Les lignes de sa chair se courbèrent, son corps se gonfla comme un fruit. Et quand nous l'entrevîmes cette saison-là, nous l'admirâmes avant de la reconnaître tellement elle était recommencée. Comme elle s'équilibrait de la sorte avec le bel époux puissant qui était parvenu à lui donner une part de sa santé, de sa vitalité, du paradis terrestre. Et la transformation continua à rayonner d'elle. Ses regards s'éclaircirent, se modifièrent, et ses gestes et ses pensées. Or, le trouble Lambert traversa en ce moment leur destinée. Alors elle en fut éblouie. Elle trembla. Puis elle le choisit éperdument, se jeta vers lui. Instinct affreux, terrible, soit, mais logique. N'avait-elle pas changé de la nuque au talon et jusque dans les ombres de ses chairs? N'était-elle pas devenue une vraie femme, par conséquent une autre femme, pleine d'un autre cœur? Et en un éclair, en un coup d'œil, elle oublia non seulement son adoration perpétuelle pour l'autre, mais encore son dégoût d'antan pour celui-là. Si elle pensa à ses vieux rêves, ce fut pour les écarter, pour les haïr. Le passé ne comptait plus, il était mort. Mieux que cela, il était tué. Rien n'existait devant l'élan de tout son être renouvelé et virginal, devant la force de son premier amour.